Alors, notre passage ce matin se trouve dans la première épître de Pierre. Donc on poursuit notre série dans cette lettre. Donc nous sommes au chapitre 4, donc c'est à la page 801. On va lire les 11 premiers versets du chapitre 4. Et avant de les lire, je vais prier. Prions. Merci à notre bon Père Céleste pour tes paroles, ces paroles qui sont les paroles de la vie. Et Père, nous voulons te demander ce matin de nous vivifier par ces paroles, de nous parler pour nous donner la vie, pour donner la vie peut-être pour la première fois à ceux qui ne te connaissent pas, mais à donner la vie à chacun. Instruis-nous ce matin, conduis-nous Seigneur à te connaître davantage, à t'aimer davantage, à te suivre plus fidèlement. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et toute beuverie, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors que pensent vos amis non-croyants de la foi chrétienne? Alors il y en a qui ont sans doute des avis sur le sujet, ils croient ou ils ne croient pas en l'existence de Dieu, ils croient ou ils ne croient pas en la résurrection de Jésus-Christ. Mais il y en a d'autres qui n'arrivent même pas à vraiment examiner les fondements de la foi, les doctrines essentielles, parce qu'ils s'arrêtent un peu à l'image que nous leur donnons de la vie chrétienne. Ils ne jugent non pas sur la doctrine, mais sur la vie chrétienne. Quelle est leur image de la vie chrétienne? Est-ce une bonne vie? Une vie qui vaut la peine d'être vécue? Ou est-ce qu'ils pensent qu'elle est une vie de bornée, de rabat-joie, ou même de coincée? De nos jours, avec tous ces débats sociétaux sur le mariage des homosexuels ou sur l'avortement ou sur la gestation pour autrui, certains ont même tendance à dire que la vie chrétienne ou la pensée chrétienne, la doctrine chrétienne est une vie immorale, une pensée qui n'est plus acceptable, plus en phase avec les droits de l'homme. Force est de constater qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette dissonance que nous pouvons ressentir dans notre société, mais aussi peut-être parmi nos amis, à la fac, au bureau demain matin, cette dissonance était également ressentie par les chrétiens à qui Pierre avait écrit cette lettre. Ce matin, dans notre passage, l'apôtre Pierre va terminer une grande section dans cette épître, une section qu'il avait commencée au chapitre 2, sur la vie chrétienne, sur comment vivre de manière distincte en tant que peuple de Dieu. Distincte parce que nous ne sommes plus chez nous sur cette terre. Nous sommes que des résidents temporaires, des étrangers. Nous sommes un peu déphasés par rapport à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et on a vu, on a un nouveau but. Un but que Dieu a donné à son peuple, celui de l'adorer, de déclarer haut, c'est au fait, de déclarer fort, c'est au fait, dans un monde qui ne le connaît pas. Par des paroles, mais aussi par une vie distincte, une vie obéissante. La semaine dernière, c'est Alex qui a apporté la prédication. Il nous a montré que lorsque les choses se corsent, quand il y a de la souffrance, même quand il y a de la souffrance parce qu'on fait le bien, on doit continuer, coûte que coûte, à faire le bien et à ne pas craindre les hommes, mais à révérer Jésus-Christ, à craindre d'abord Jésus-Christ. Aujourd'hui, Pierre nous parle de nouveau de comment faire face à la souffrance, comment faire face aux ennuis qui peuvent être les nôtres parce qu'on appartient au Seigneur Jésus. Et dans un sens, Pierre nous donne un exemple de là où nous pourrions être tentés de craindre plus l'homme que Dieu, de craindre plus ce que les hommes disent, plutôt que de craindre le Seigneur Jésus. On a deux points ce matin. Résister à la tentation d'une vie facile et aussi, deuxièmement, poursuivre cette vie de sainteté, cette vie sacrificielle plutôt. Je vais commencer en parlant du problème que l'apôtre Paul évoque dans ce passage. Nous sommes au verset 3 et 4. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Pierre décrit la vie sans Dieu. Pierre décrit les valeurs, les pratiques, les mœurs du monde païen, qui franchement ne sont pas très différentes de celles de notre société. Il y a cette liberté sexuelle assumée, une sexualité débridée, on couche avec qui on veut. Il évoque aussi une société où l'alcool coule à flot. Et ensuite, il résume ces choses en parlant de l'idolâtrie. Parce que dans le fond, ces choses relèvent de l'idolâtrie, des faux dieux. Par ces drogues du sexe et de l'alcool, on essaie de se combler, de trouver du réconfort, du confort, de se rassurer, de se sentir bien, de se sentir aimé, désiré. Alors bien sûr, il y a d'autres idoles très présente dans notre société, la poursuite de biens matériels. Nous savons le désir d'avoir une bonne réputation, d'avoir plein de likes sur Facebook, ou peut-être le besoin de contrôler nos circonstances, peut-être de contrôler les personnes qui nous entourent. On cherche en ces choses ce que nous devrions chercher en Dieu lui-même. Et ces choses nous servent d'appui pour remplacer une relation juste avec Dieu. Jean Calvin a dit que le cœur humain est une usine à fabriquer des idoles. Et ensuite, Pierre dit que parce que ces chrétiens à qui il écrit avaient décidé de résister à ces idoles, de ne plus se plonger dans le courant d'eau qui part comme un tsunami à 100 km l'heure vers la mer, dans ce courant qui déborde de partout, qu'est-ce qui se passait? On les calomniait. On disait du mal d'eux. On les injuriait. on se moquait d'eux. Voici le problème, c'est ça le problème. C'est ça la souffrance dont il est question dans ce passage. Alors c'était sans doute très difficile à cette époque. Le christianisme était vraiment nouveau. Mais force est de constater que les choses n'ont pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Certains n'aiment pas ce qu'on croit, mais bien d'autres s'arrêtent tout simplement à notre conduite, à la vie chrétienne. Les gens n'aiment pas votre vie chrétienne parce que vous ne faites plus comme eux. Vous y avez mis le holà, et parce que vous résistez au courant, ils vous traitent de ringard, de coincé, de rabat-joie peut-être, d'homophobe, de borné. Alors, si vous ne l'avez pas expérimenté, je pense que vous le redoutez quand même. On le craint, on craint ces moqueries, ces commentaires un peu assassins au bureau. On ne veut pas se faire passer pour un extraterrestre. Et c'est pour ça qu'on est bien tenté de faire profil bas. La crainte de l'homme est très puissante. On ne donne pas notre avis à la cantine quand les collègues évoquent des sujets difficiles. On ne dit pas clairement ce qu'on pense. Alors c'est sans doute particulièrement dur pour les jeunes au lycée ou à la fac, où la pression de se conformer est vraiment forte. Mais je pense que c'est dur aussi à d'autres moments de la vie. Si on essaie d'être honnête au travail, de ne pas tricher, de ne pas mentir, si on veut vraiment respecter la loi, au travail on risque parfois d'être ridiculisé, ou peut-être pire, d'être mis au placard. Alors que faire? Dans cette partie de sa lettre, Pierre veut nous encourager à tenir ferme, à ne pas ramer en arrière pour avoir la vie facile. Face à ce genre de moquerie, on est tenté de lâcher un peu du lest et à revenir en arrière. On est tenté de mettre de l'eau dans notre vin et de nous taire. Mais Pierre nous appelle à la lutte. Est-ce que vous voyez ça au verset 1? Pierre utilise une image bien militaire. Il parle du fait de nous armer, de nous équiper en armement militaire. Alors, il s'agit bien sûr d'une image. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit militaire ou de venir la semaine prochaine avec des vêtements en camouflage. Il faut que nous nous armions au niveau de notre pensée. Est-ce que vous voyez ça au verset 1? Cette lutte spirituelle et mentale. Une meilleure traduction de ce mot pensée serait le mot conviction ou le mot résolution. On s'arme avec la volonté ferme, décidée de lutter. Nous ne pouvons pas nous défendre ou mener ce combat si nous négligeons ce qui se passe dans notre pensée, dans notre cœur. Il nous faut cette conviction, cette résolution, cette volonté ferme de résister. Alors dans cette section, Pierre nous donne deux armes. La première est centrée sur ce que Christ a fait au passé. Et la deuxième est centrée sur ce que Christ fera à l'avenir. En fixant nos yeux sur lui, nous allons apprendre à la révérer plus qu'autre chose, plus que les hommes. Si on pense à l'apôtre Pierre lui-même qui a écrit cette lettre, il a dû apprendre cette crainte du Seigneur, lui qui a renié le Seigneur trois fois devant cette jeune fille, cette servitrice du prêtre. Pierre a dû apprendre cette crainte du Seigneur. Ce que Christ a fait au passé est lié bien sûr à sa souffrance, à son calvaire sur la croix. C'est ce qu'on voit au verset 1. « Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Jésus, on le voit au verset 18 du chapitre 3, juste quelques versets avant, est mort pour les péchés de son peuple. Et ce, une fois pour toutes. Jésus est allé de manière résolue à la croix, parce qu'il le fallait. Il fallait qu'il nous libère de la condamnation que nos fautes méritent. Il fallait qu'il nous libère de la domination, de la puissance du péché, du mal, qui tenait nos cœurs en captivité. Il a fait pour que nous puissions échapper à la mort éternelle, à l'enfer, et vivre éternellement avec lui. Il a ainsi défait, conquis, vaincu le mal. Et Pierre nous invite à regarder à notre Sauveur et avoir la même conviction, la même résolution dans nos cœurs. Jésus est-il sans péché et nous sommes pécheurs. Mais cette même conviction peut animer notre volonté. Le péché, on n'en veut plus. Le flirt au bureau, l'aventure d'une nuit à la fac, la pornographie est dans le secret de notre maison. Le laisser-aller de celui qui se donne à l'alcool pour apaiser ses craintes ou pour garder la face devant ses collègues en voyage d'affaires. La poursuite insatiable des biens matériels pour se sentir en sécurité ou pour rivaliser nos voisins. Ce sont des idoles, des mensonges. Ils ne sont plus notre appui, notre réconfort. On n'en veut plus, on en a marre. C'est du passé. Alors sur le moment, ils ont l'air attirants, réconfortants. Mais ce sont des mensonges qui n'aboutissent à rien. Tout comme Jésus est allé résolument à la croix pour en finir avec tout ça, à notre place, pour payer notre dette. Nous aussi, de manière résolue, nous voulons nous y tourner le dos. Mais pour y arriver, il faut que nous fixions notre regard sur Jésus. Celui qui en a fini avec le péché à notre place, pour nous en libérer, pour que nous n'ayons plus jamais à subir la juste condamnation de Dieu. Il nous faut sa résolution, sa conviction, les mêmes sentiments que lui. Alors la résolution purement humaine, l'effort de se retrousser les manches et à mieux faire, sans s'appuyer sur Jésus, sans faire des efforts en s'appuyant sur Jésus, n'aboutira à rien. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Je pense que Pierre parle plutôt des croyants. On pourrait penser qu'il parle de Jésus, mais je pense qu'il parle plutôt des croyants ici. Il leur dit que s'ils souffrent des brimades, des moqueries, c'est parce qu'ils ont déjà cette volonté ferme. Ils ont fait cette rupture avec le péché et ils en souffrent aux mains de ceux qui les calomnient. Alors, aucun chrétien n'est parfait. Ce péché sera toujours une tentation, toujours une lutte, mais si nous nous armons de la conviction de Christ, nous verrons que ces brimades, ces petits commentaires assassins ici et là, dans la vie de tous les jours, deviendront une source d'assurance. Une source d'assurance qui déclare à notre cœur qu'en effet, voilà, on en a fini avec le péché. L'autre motivation que Pierre nous donne est également centrée sur Jésus, sur ce qu'il va faire à l'avenir. Est-ce que vous voyez ça au verset 5 et 6? Il s'agit d'abord du jugement de Dieu, sans doute par Jésus-Christ lui-même. Il dit, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Oui, la crainte de l'homme nous tentera de chercher une vie facile, à tempérer, à mettre de l'eau dans notre vin, à rejoindre nos amis non-croyants dans ce qui leur fait plaisir, dans ce que notre société décrit comme un droit, comme normal, comme souhaitable. Mais il ne faut jamais que nous oublions que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui aura le dernier mot. Les idoles de cette sexualité libertine, de cet esprit de divertissement perpétuel, du consumérisme insatiable, peuvent avoir l'air doux, anodins. Mais en réalité, leurs fruits sont amers, très amers. Et si ça ne se voit pas avant, ça va se voir, ça se verra à coup sûr lorsque Jésus revient. Mes frères et sœurs, votre destinée est bien différente. Parce qu'en Christ, nous avons la vie. Que vous soyez vivant au moment du retour de Jésus ou que vous mourrez avant, vous avez déjà la vie. C'est ce qu'on voit au verset 6. Oui, beaucoup d'entre nous, peut-être nous tous, passeront par ce jugement qui est la mort physique. Mais puisque nous avons l'Évangile, puisque l'Évangile nous a été donné, puisqu'on a Christ, sa vie, nous aurons sa vie pour l'éternité. Nous avons déjà ce trésor, mais nous n'avons pas à brader ce trésor en ramant en arrière, juste pour avoir la vie facile. Nous devons craindre, révérer Christ, parce que notre trésor est Jésus-Christ. On dit que la meilleure stratégie de défense, c'est l'offensif, c'est le fait de s'engager positivement dans le combat. Il ne faut pas être tout le temps dans une posture défensive. Il faut sortir des tranchées et avancer. Après la résistance, les versets 1 à 6, nous avons les versets 7 à 11. Et nous voyons cette stratégie positive. Voici notre plan de bataille. Si on pense à ce qu'on a vu ces dernières semaines dans cette lettre, au fil conducteur de cette lettre, nous y voyons ici une stratégie pour l'Église, pour remplir la nature et la vocation de l'Église. Nous sommes le peuple de Dieu, choisi, racheté, construit sur la pierre vivante, Jésus-Christ. Pourquoi faire? Pour déclarer ses hauts faits, pour l'adorer lui seul, lui qui nous a sauvés par la grâce seule. Et nous le faisons par une vie qui ressemble à celle de Jésus-Christ, par une vie sacrificielle. Ce plan de bataille n'est pas un plan pour ceux qui veulent faire cavalier seul. L'Église doit avancer ensemble. Nous devons louer Dieu ensemble. Nous sommes un temple ensemble. Nous avançons même face aux fléchettes de ces moqueries en poursuivant une vie de sacrifice, une vie d'Église où les besoins d'autrui passent en priorité avant les nôtres, devant les nôtres. Est-ce que vous voyez ça dans les versets 8 à 11, où il parle de l'amour, de l'hospitalité, du service? Pierre parle de l'amour réciproque, un amour ardent, sincère, véritable pour nos frères et sœurs. Et ensuite, il ajoute que cet amour-là couvre une multitude de fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas que notre amour enlève les fautes des autres, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que son sacrifice à la croix qui satisfait la justice de Dieu. Donc Pierre parle d'un amour qui patiente, qui ne cherche pas à dénicher la faute chez l'autre, qui n'est pas tout le temps en train de pointer du doigt. Bien sûr, parfois, quand le péché sème le trouble dans une église, ou s'y devient une source de scandale, les Écritures nous demandent de corriger publiquement le péché par la discipline d'église. Parfois, il faut aussi ces moments en privé, lorsqu'une sœur, un frère pêche, pour les corriger, parce qu'on les aime. Jésus nous a appelés à faire ça. Mais très souvent, nous devons juste supporter, patienter les faiblesses de nos frères et sœurs, les aimer malgré tout. Nous sommes tous si faibles, tous si enclins à l'égoïsme, si prompts à ouvrir nos bouches et à dire des choses que nous ne devrions pas dire. Nous lisons dans une lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe que l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout, il supporte tout. Et ensuite, on voit que cet amour s'exprime de manière pratique aussi par l'hospitalité. Littéralement, la racine de ce mot en grec renvoie à l'idée de l'amour pour l'étranger, pour la personne qu'on ne connaît pas. C'est le fait de recevoir, d'héberger, de donner de la nourriture, de l'aide de tout genre à celui qui est simplement de passage, à celui qui est dans le besoin. Alors c'est facile de faire manger pour ceux qu'on aime, de rendre service à ceux et celles avec qui on s'entend bien, mais donner à la personne qui ne va rien donner en retour, c'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il ajoute « sans murmurer, sans se plaindre ». Parce que parfois, c'est tentant de voir ça comme un fardeau en plus, on ne va jamais vraiment faire la connaissance de cette personne. Mais Dieu nous demande de faire preuve de générosité, tout comme il nous a montré sa générosité. Alors, vu le contexte, Pierre parle sans doute d'abord à l'Église, dans le contexte de l'Église, mais sans doute aussi, il pense à une application plus large. On peut se poser la question, est-ce que nos vies sont marquées par cette générosité qui ne compte pas, qui ne murmure pas, qui ne s'attend à rien en retour? C'est une générosité qui ne se soucie pas de l'image. On a peut-être une petite maison, un petit appartement. On a peut-être peu de ressources. On n'est peut-être pas très bon en cuisine. On est peut-être fatigué. Et pourtant, on est appelé à accueillir généreusement celui qui est dans le besoin. Pierre nous appelle à une vie de sacrifice qui ressemble à celle de Jésus-Christ. On voit ça aussi dans les versets 10 à 11. Là, il parle des dons. Les dons que le Saint-Esprit donne à chacun des enfants de Dieu. Et Pierre divise en deux parties, il catégorise en deux parties les dons qui relèvent de l'annonce de la parole de Dieu, l'enseignement, la prédication, l'évangélisation, et les dons qui relèvent du service, le service pratique, l'encouragement, le don de l'argent, le don de diriger, le don de venir au secours, le don même de miracle. Et pour les deux types, Pierre creuse et expose les fondements justes. C'est une question d'être un bon intendant des dons que Dieu nous donne. En les utilisant non pas pour nous-mêmes, pour nous réaliser, pour nous épanouir dans l'Église, mais simplement pour servir, pour édifier nos frères et sœurs. Parfois, on parle de trouver sa place à l'Église, comme si c'est difficile de faire ça. Mais nous avons tous une place, c'est celle du service. Et ce service s'exerce de multiples manières. Est-ce que vous venez le dimanche matin un peu dans cet esprit-là? Est-ce que vous venez pour servir vos frères et sœurs? Alors, c'est facile de venir que pour participer à un culte, pour chanter à Dieu, pour consommer ce qui est donné, pour recevoir la prédication. Et dans un sens, on veut quand même mettre l'accent là-dessus. On est là pour recevoir de la part de Dieu. On a besoin de sa grâce. Mais en réponse à cette grâce, en réponse à ce que Dieu a fait, Dieu nous appelle à servir nos frères et sœurs. Et ça de manière pratique. Ce service s'exprime dans le fait d'être là régulièrement, tant que ça dépend de nous. D'être à l'écoute des frères et sœurs, de leur parler, de faire la connaissance, de prier pour eux. Nous sommes là pour porter les fardeaux les uns des autres. Et le verset 11 nous donne une motivation. Cela glorifie notre Dieu. Ça le glorifie parce que c'est Jésus lui-même qui produit ses fruits dans nos vies. De nous-mêmes, on n'est pas capable de porter ce genre de fruits. Ces fruits que Jésus suscite en nous déclarent les hauts faits de Dieu. C'est lui qui est à l'origine de ces choses. Aussi, on pense au contexte de ce passage, ce que nous avons vu ces dernières semaines. Nous nous souvenons du début de cette section, au verset 12 du chapitre 2. Là, on a lu « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » La meilleure défense face à ces moqueries, face à la calomnie, c'est l'offensif, à savoir cette vie positive, cette vie heureuse en Jésus-Christ qui se donne au Seigneur. Mais comment y arriver? Comment vivre cette vie sacrificielle? Comment mener ce combat de manière positive? C'est pas facile, hein? Le verset 7 nous donne la clé. Et encore une fois, Pierre nous invite à fixer nos yeux sur Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Et dans un sens, nous bouclons la boucle dans cette grande section que Pierre a commencé au chapitre 2. Pierre nous exhorte à avoir une bonne perspective, à bien nous rendre compte de qui nous sommes par la grâce seule et où nous allons en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ. La fin de toute chose est proche. Donc Pierre évoque le retour de Jésus-Christ. Ces temps de la fin ont commencé lors de la résurrection de Jésus-Christ. Nous vivons aujourd'hui ces temps de la fin. Nous vivons ces temps de la fin avec nos yeux rivés sur l'avenir, d'où nous attendons celui qui nous a sauvés par la grâce, qui nous a aimés jusqu'à l'extrême. Et Pierre nous appelle à être sobre, à être sage. C'est une question de penser sainement, d'avoir des idées claires. Et en fait, ces idées claires se précisent en regardant à Jésus. On attend son retour. C'est difficile de mener cette résistance à l'égard de la tentation d'une vie facile. C'est difficile de vivre cette vie de sacrifice de manière intentionnelle. C'est difficile si nous n'avons pas à l'esprit de manière claire notre avenir. L'avenir où par la grâce seule, en vertu de l'œuvre de Jésus seul, on sera face à face avec lui, dans sa présence, dans la présence de notre bon Père Céleste qui nous aime. Si demain vous avez un entretien pour un nouveau travail, vous vous y préparez. Vous réfléchissez à ce que vous allez dire. Vous travaillez aujourd'hui de manière intentionnelle en vue de cet entretien demain. L'avenir, la perspective de ce qui va se passer doit captiver notre pensée aujourd'hui. De même, si l'avenir avec Jésus dans la présence de notre bon Père Céleste ne nous captive pas, comment est-ce qu'on va vivre de manière intentionnelle? Il nous faut encore et toujours plus de Jésus, n'est-ce pas? Il nous faut plus de lui afin de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, d'une manière qui lui rend gloire. Cette vie en attendant doit être une vie centrée sur Jésus, sur celui qui a souffert pour nous conduire à la vie. Cette vie en attendant n'est pas facile, comme la sienne ne fut pas facile. Mais nous suivons sur ses traces et là où il est aujourd'hui, nous en sera demain. En fixant notre regard sur lui qui est mort pour nous, sur celui qui juge et qui donne la vie, nous sommes conduits à la prière, c'est ce qu'on voit au verset 7. Et devant Dieu dans la prière, nous voyons de manière plus claire. Dans la prière, il n'y a que Dieu et nous. Il n'y a pas tous les autres hommes que nous avons tendance à craindre. Nous sommes devant celui que nous craignons avec une crainte filiale, avec la crainte d'enfant aimé et sauvé. C'est là, à ses pieds, que nous trouvons la force de résister à la tentation de cette vie facile. C'est là que nous trouvons la force d'aimer nos frères et sœurs de manière sacrificielle, de manière coûteuse. Et c'est pour ça que nous allons prier, mais pas par routine, mais parce qu'on a vraiment besoin de l'aide de Dieu dans ce domaine. Prions. Notre bon Père Céleste, nous sommes devant toi ce matin, dans ta présence, grâce à ton Fils qui est à ton côté, en train de plaider notre cause sur la base de son sacrifice parfait et suffisant. Nous sommes là devant toi. Père, nous reconnaissons que nous avons dans la vie de tous les jours, bien du mal à craindre, à te craindre, à craindre ton Fils. Nous craignons si souvent les hommes et ce qu'ils disent. Notre Père, nous voulons te demander de nous aider à te craindre avant toute chose cette semaine. À donne-nous de fixer notre regard cette semaine sur ton Fils, sur celui qui juge, sur celui qui donne la vie, sur celui qui a souffert pour nous conduire à toi. Notre Père, aide-nous à fixer notre regard sur lui dans les moments difficiles. Et aide-nous à résister à ces idoles creuses, à ces mensonges. Aide-nous à dire non à ce qui te déplaît et à dire oui à ce qui te plaît. Donne-nous d'aimer nos frères et sœurs. Donne-nous cet amour qui couvre une multitude de fautes. Aide-nous à avancer ensemble en tant qu'Église dans ce bataille, dans cette bataille de la vie chrétienne pour déclarer tes hauts faits, pour rendre muets ceux qui critiquent, qui calomnient la foi. Donne-nous de vivre cette vie qui est si belle, si heureuse en toi. Nous avons besoin de ta force. Aide-nous à te craindre, à t'aimer de tout notre cœur. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.